Vous écoutez
RMC.
RMC.
À un moment de la saison, ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse. Hein.
Vous savez qu'on peut commencer la compétition sur des échappeaux de roue.
Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner parce que ça, on en a besoin.
Je me mets dans les roues de Marc Ambrosiano.
Mais oui, parce que...
Comme on dit dans le vélo, je te suce la roue.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, bien sûr, en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After. On est partout dans l'After, première radio de France ce soir, vous le savez. Ce soir, Elton Boccolo est là, salut Elton.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
David Glusman est là également, salut David.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors l'événement ce soir dans l'After, c'est bien sûr le match de Monaco qui vient de se terminer, victoire 3-2 en Pologne, un match aller de barrage de Conference League. On peut considérer qu'ils ont peut-être d'ores et déjà fait le plus dur. On va analyser le match dans quelques instants, faire l'évaluation, supporters de la on vous attend au 32-16 dans quelques instants. La Ligue 1 sera ensuite au programme parce que ça démarre demain avec le match Marseille-Strasbourg. Un gros Ligue 1 à la tête. Donc ici, bon, le championnat. Quelles sont les nouveautés cette année? Qu'est-ce qui va se passer à Ligue, sur Ligue 1 Plus? Tout à l'heure, Nicolas Pelletier sera avec nous parce qu'il y a eu une grande présentation ces dernières heures à Ligue 1 Plus, donc pour la nouvelle saison. Et vous saurez tout. Peut-être que ça coûtera moins cher aussi, on verra. Parce que le foot à la télé, tous les ans, ça bouge un peu. Là maintenant, si vous voulez le foot espagnol, il faut changer d'opérateur. On en a parlé dans l'after ces derniers jours. Et Elton, évidemment, a regardé Rayo Vallecano, Deportivo La Corogne et tous les autres.
Je me garde parce que pour des impératifs professionnels, il y avait Monaco qui jouait, donc on regardera un peu plus tard dans la soirée.
Hier, je voulais papoter avec lui, il m'a dit je te laisse, c'est Atlético. J'ai mis 10 secondes à comprendre.
Ah oui, c'était à reprise, c'est Atlético, donc forcément c'est un match important. Ouais.
Voilà tout à l'heure la Ligue 1 donc. Et puis, vu qu'on est en veille de Ligue 1, et on le fait tous les ans, ce soir c'est l'heure de faire les paris de l'after. Paris de l'after pour la saison qui démarre. Je vais vous donner dans quelques instants la série de... Tu te régales toi, David, il est à bloc.
Gilbert, on préfère prévenir avec bienveillance.
Ou pas, ça dépend. Parle pour toi Elton, parle pour toi.
Bah, on t'a pas demandé de la bienveillance, hein.
Exactement.
On t'a demandé de la franchise.
Il a mal lu l'énoncé. Moi, je suis arrivé plein fer.
Donc, si vous voulez jouer avec nous, parce que c'est un peu un jeu, on va pas se mentir, vous appelez le 32-16. On a fait, alors, l'équipe au top, l'équipe flop, révélation de la saison. Ça peut être équipe, joueur, on peut y aller. Le meilleur buteur de la saison, les relégués, les qualifiés en Coupe d'Europe, l'entraîneur de l'année. On va d'ailleurs démarrer dès maintenant la sac race. Bah oui, on peut y aller.
On peut y aller.
Et on fera ça tout à l'heure. Le premier entraîneur viré donc. La recrue de l'année, la plus mauvaise recrue de l'année. Le tube de l'été, genre le gars là qu'on a vu pendant l'été puis qui va peut-être disparaître.
Le Alain Traoré, tu veux dire, de 2026.
Voilà, par exemple. Donc 32-16, n'hésitez pas à appeler nous pour participer à tout cela tout à l'heure et partager vos avis avec nous. Le 32-16 est ouvert pour tous les sujets du soir. Le numéro WhatsApp de l'After également 06 12 424. Avant de démarrer sur le match de Monaco, un petit tour au basket parce qu'il y a un match amical ce soir. France-Serbie, Léna Marjac, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Il reste 7 petites secondes de jeu, mais beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu évidemment dans ce Money Time. 89-87 pour la Serbie. C'est extrêmement serré parce que les Français de Victor Wembanyama ce soir, le capitaine, se sont réveillés dans les derniers instants. Donc encore 7 petites secondes de jeu. Mais pour l'instant, il y a des arrêts de jeu, des temps morts pris des deux côtés. Donc on va suivre ça avec intérêt. 7 secondes encore à jouer, c'est 89-88 à l'instant pour la Serbie.
Bon, on a vu un match à but les gars, et Monaco qui gagne. Bon, je pense quand même qu'a priori il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Ce serait quand même hallucinant que Monaco n'élimine pas l'équipe polonaise de Górnik Zabrze.
Exactement, oui. C'est un Monaco qui a fait le travail pour l'instant, qui a été réaliste, parce que entre le timing du premier but, le timing du deuxième but et le timing du troisième but, à chaque fois on a vu Zabrze qui était en mesure de revenir, et Monaco à chaque fois a fait valoir son réalisme. Et Zabrze, au passage, c'est une équipe qui, entre Fenerbahçe en Ligue des Champions, Ferencváros pour la Ligue Europa, les tours préliminaires, à chaque fois il y avait une forme de naïveté qui s'est encore ressentie ce soir. Et donc Monaco fait le travail, mais il y a plusieurs choses à dire sur la.
T'as vu les autres matchs de Górnik Zabrze, toi?
Pas du tout. Pas du tout. Je me suis juste renseigné.
Quelques contacts en Pologne.
Des fois, il est inquiétant, mais là, je me suis dit, au-delà d'inquiétant, quoi.
Non, mais là, on le faisait quitter le plateau. Là, c'était une petite analyse, là.
Bon, t'es d'accord? David ?
Non, je suis d'accord. Et après, c'est vrai qu'il y a plusieurs enseignements. Moi, j'ai des enseignements un peu mitigés. J'ai un enseignement positif sur la place des jeunes et de ceux qu'on n'attendait pas forcément. C'est-à-dire que Idumbo, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau. Et je l'ai trouvé très intéressant. C'était quasiment la force offensive. J'ai trouvé Mathis Détourbé pour un premier match de Coupe d'Europe. Lui qui vient de Ligue 2, inspiré. Comme on témoigne sa passe décisive sur le premier but. J'ai trouvé Sadi Boussané encore un peu nerveux, mais incisif, et j'ai beaucoup aimé l'entrée d'Anis Soubert, qui avait été mise en valeur dans les matchs amicaux, qui a été chippé à Metz et que moi j'ai trouvé hyper intéressant. Par contre, j'ai envie de mettre l'accent sur la prestation un peu inquiétante des leaders supposés. Zakaria, d'ailleurs, Monaco va avoir besoin de ses leaders et je ne les ai pas trouvés au rendez-vous ce soir.
Oui, on va faire une évaluation complète dans quelques minutes, on va prendre le temps, évidemment. J'aimerais juste quand même... La Conference League, c'est une compète pour le club français.
Ah, je suis d'accord.
Il n'y a pas de raison que Monaco ne gagne pas la Conference League.
Tu en as parlé à Kevin Diaz parce qu'on s'est fait houspiller quand on a osé lyncher. Ouais. Hier, notre slogan de la soirée, c'était « Road to Istanbul ». C'est-à-dire qu'on est persuadé que Monaco, avec Elton, on était d'accord, doit d'avoir comme objectif...
Moi, je le disais pour Strasbourg l'an dernier.
Bah oui, tu as totalement raison.
Mais tu as totalement raison. Mais pourquoi ?
Parce qu'en gros, tu as un club espagnol, un club anglais, un club allemand, un club italien, un club français.
C'est ça.
Bon, c'est ça.
Oui, alors après, t'as un beau club anglais. La Brighton, c'est un club avec un effectif
Brighton, j'attends de voir. J'attends de voir version Europe.
Brighton version Europe ? Ouais, l'effectif est quand même hyper.
Brighton, c'est mieux que Crystal Palace l'an dernier ?
Ouais, je pense que c'est un peu plus armé.
Alors, je suis pas perdu.
Sur le banc, Oliver Glasner, à mon sens, est un entraîneur plus accompli qu'Kurt Zoller. Mais là, l'effectif est quand même très fourni, un Brighton. Très fourni. Il vient en plus de faire
Donc t'as Brighton, t'as l'Atalanta Bergame.
Ouais, de Mauricio Sarri, que moi je trouve un peu en fin de course.
Fribourg,
finaliste de la Ligue Europa.
Voilà.
Retafe de Bordalas.
Bon, Retafe, c'est pas.
Attention.
Tu diras, Rayo Vallecano, on les attendait pas forcément en finale.
Justement.
Non, mais surtout que Bordalas sur un match à élimination directe, moi j'ai pas envie d'aller jouer là-bas.
C'est ça, exactement.
Oui, parce que Retafe, ils ont la réputation d'être une sorte d'équipe de casseurs.
Bah, t'auras pas un match à 5 buts, ça je te le garantis.
Non, mais pour dire, voilà, on va revenir au match ce soir, mais. Enfin, franchement, bon, Monaco, je vois pas comment ils élimineraient pas les Polonais. Et derrière, mais faut pas se cacher, quoi.
Ah non, moi, je suis absolument d'accord. De toute façon, moi, je dis exactement la même chose.
Et qui n'était pas d'accord avec vous hier?
Bah, tout le monde. Karine n'était pas du tout d'accord. Aucun des auditeurs, aucun des intervenants WhatsApp n'était d'accord. Kevin Diaz, sans vouloir dénoncer, Kevin Diaz n'était pas d'accord. Maxime Chanot n'était pas d'accord, avant.
Mais c'est quoi les arguments?
Bah, c'est de te dire que historiquement, les clubs français
sont nuls.
Ont toujours été défaillants en Coupe d'Europe. Et moi, je pense que on ne garde pas en tête le fait qu'il n'y a plus de reversement. C'est-à-dire que le plateau que tu as au début en phase de groupe, tu l'auras. T'as plus d'intrus.
Les clubs d'Europa League qui retournent. Exactement, avec la nouvelle formule.
Et puis, il faut surtout prendre en compte que Monaco n'est pas programmé pour jouer la Conference League, a beaucoup plus une réalité Ligue des Champions. Le fait d'arriver en Conference League, pour moi, c'est beaucoup plus un accident que la résultante, en fait, de la valeur réelle de Monaco.
À mon sens, l'effectif de Monaco cette année aura plus une réalité. On va partager la poire en deux, peut-être une réalité Europa League. Parce que c'est vrai que les joueurs de gala, les plus grosses valeurs marchandes, que ce soit Balogun, que ce soit Kliouche, vont quitter le navire et on va repartir sur plus des paris des joueurs un peu plus jeunes.
Ouais, parce que là ce soir c'est une équipe, c'est une version bêta, c'est pas l'équipe qu'on va voir.
Il y a plein d'absents.
Ça a contextualisé, mais dès lors que les t-shirts vont revenir, en plus le
mercato. Surtout qu'Elton, on le disait hier, dans la réalité économique de Monaco, c'est une bénédiction, c'est une occasion de donner du temps de jeu à tous ces jeunes qui sortent du centre de formation ou qui sont arrivés en post-formation et de les valoriser parce que tous les ans Monaco, avec la minceur de ses revenus, va devoir faire du trading. Donc c'est une occasion rêvée pour les valoriser.
La France a perdu en match amical de basket face à la Serbie de 3 points, 90-87. Et on accueille Mickaël au 32-16, supporter de Monaco. Mickaël, bonsoir.
Bonsoir.
Salut Mickaël.
Salut Mickaël. Bon Mickaël, comment tu la sens cette saison là avant qu'on parle du match?
Alors moi je suis un peu mitigé. Je suis mitigé sur cette saison. Moi je pense que vraiment le gros point noir ça va être la défense et on l'a vu ce soir. Donc après, on peut dire que c'est quand même un premier match et que, bon, peut-être qu'on va tirer des enseignements un peu plus tard. Mais je trouve que l'AS Monaco, ça fait quand même 3-4 saisons que c'est très, très compliqué en défense. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de chantier qui s'ouvre sur ça. Il n'y a pas de recrues vraiment pour essayer de redynamiser ça. Donc c'est pour moi, je suis vraiment inquiet, c'est au niveau défensif.
Bah, tu en as eu historiquement des recrues, même des recrues assez chères. Maouissa, Salissou, Jordan Tézé, Thilo Kerrer, c'est des recrues quand même à l'échelle de la Ligue 1, non, à l'échelle
David,
de Monaco,
on va,
assez chères.
Non, mais plus loin, c'est quand la dernière fois que Monaco a eu une défense stable et compétitive?
Bah, c'est ça le problème, c'est que
t'es j'ajoute un grand gardien en qui tu peux avoir confiance.
Alors le gardien, il y en a qui datent Subasic. Moi, je considère même pas Subasic comme un.
Non,
un
je le mets quand même. Enfin, pas top gardien, ouais, mais je le mets quand même.
Flavio Romain en 2004.
Ce serait extrême. Ouais. Ce serait extrême. Non, je mets quand même 2017. Et si je veux pousser et être optimiste, je mets 2021. L'équipe qui termine troisième.
Oui, vraiment, voilà, c'est à peu près dans les mêmes statistiques. Alors après, le problème, c'est que oui, tu dis qu'il y a eu des recrues assez chères en défense, etc. Mais alors, qu'est-ce qui bloque à Monaco au niveau de la défense? Parce que c'est pas la première saison, comme je dis, ça fait au moins quatre saisons, c'est vraiment très compliqué. La saison dernière, on est quand même sur une des pires défenses de Ligue 1. Vraiment, là, je vois pas comment.
Là, ce soir, je pense aussi que c'est une question de système et de choisir de jouer en 4-4-2 à plat avec Lamine Camara, qui est vraiment un numéro 8, et un Zakaria qui a été déficient ce soir.
Ouais,
je pense que c'est pas uniquement individuel.
Dans un poste de milieu relayeur gauche qui est pas forcément évident parce que c'est un système qui est très ambitieux. Et en fait, t'as une animation défensive parce qu'on est obligé de parler d'une animation défensive qui a été poreuse. Ce soir, bah, t'as Zabjé qui prend beaucoup trop de tirs. Et ça, il va falloir corriger les tirs. Mais d'une manière globale, là, Philippe et Louis, qui étaient défenseurs en tant que joueur, en tant que coach, là, ils s'attaquent à un énorme chantier parce que c'est le talon d'Achille de l'AS Monaco depuis plusieurs saisons. Son animation défensive qui est extrêmement poreuse, pour ne pas dire plus.
Et puis je regarde les absents. En fait, il n'y a pas de défenseurs dans les absents.
Bah oui, c'est ça.
Non,
ils sont là. Ouais. T'as Salissou qui est absent longue durée.
Je vais pas compter sur lui.
Mais qui est absent longue durée. Voilà, c'est le seul.
Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il va rester.
Bah, même, je ne comprends pas comment tu peux continuer avec d'ailleurs. Alors bon, Kerrer, je ne le porte pas non plus dans mon cœur.
Kerrer était sur le banc ce soir.
Après, il y a aussi une question de rotation, en fait. Peut-être qu'il préserve Kerrer et Jordan Tézé, qui serait d'ailleurs sur le départ, parce qu'on en parlait avec Elton avant l'émission. C'est vrai que, à mon sens, c'est peut-être ton défenseur le plus compétitif, mais il a une valeur marchande.
Bah, Tézé, il a défiancé.
Il a une valeur marchande. Donc après, je pense que c'est aussi, comme le choix de faire jouer Maouissa et pas Nazinho, c'est aussi de la gestion d'effectifs par rapport au match de ce week-end.
Oui, je pense aussi, mais je sais pas, on joue quand même une qualif, on joue quand même un potentiel avenir à l'AS Monaco, et je pense qu'au bout d'un mois, il faut mettre les joueurs qui sont les plus compétitifs. Oui, Kerrer en marchande, mais il n'a fait aucun match de prépa. Enfin, moi, je le trouve vraiment. Enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre, même si oui, on veut pas qu'il se blesse parce qu'on veut vendre, etc.
Michael, aujourd'hui, c'est ça ta réalité. J'entends totalement la logique sportive, mais la logique économique prédomine. C'est qu'aujourd'hui, une vente à 15-20 millions est aussi importante, voire plus importante, qu'une qualification pour le tour principal de la Conference League.
Même si c'est qu'un. On rappelle que économiquement, c'est mis à minima 15 millions et que 15 millions, on le rappelait hier, c'est 15% ou plus du chiffre d'affaires projeté de l'AS Monaco. Donc il y a aussi un impact financier pour l'AS Monaco à jouer cette Conference League. Elle n'est pas du tout anodine en fait.
Bien sûr.
Dans la réalité du football économique.
Au plateau, je rajoute quand même l'Ajax qu'on n'a pas cité.
C'est vrai, l'Ajax de Michel qui a bien recruté.
C'est quand même un gros club.
Ouais, qui a recruté massivement.
Qui a très bien recruté quand même.
Bon. Après, on sait qu'économiquement, ça va être très compliqué. Ça, on le sait très très bien. Il n'y a pas le nouveau fair play financier qui est mis en place par l'UEFA et qui nous impacte énormément, etc. Mais je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être mis un peu en avant. De prendre les problèmes qu'on a eu la saison dernière, essayer de les corriger cette année. En plus, comme tu as très bien dit, on a un entraîneur qui a été défenseur, donc c'est pour moi ça va être son grand chantier. Mais voilà, j'ai un peu peur moi de cette défense. Même
si attends, alors si on rentre dans les détails, c'est quoi? C'est la défense centrale en fait, si je comprends bien.
Vraiment au niveau défenseur central. Oui, je pense vraiment c'est au niveau défenseur central. Sur les côtés, bon, Nazinho, faut quand même un peu laisser le temps. Il vient de Belgique. À droite, bon, Vanderson, on parle de Tézé qui peut partir. Alors, qui on va prendre pour être en doublure?
Vanderson, l'échelle de la Ligue 1, c'est pas.
Ah, mais Vanderson, on sait, c'est beaucoup
c'est
plus contre-attaquant que défenseur.
Du tout, moi, j'espère que. Moi, j'aime bien Vanderson.
Moi, j'espère que Philippe. Il est pas très fiable physiquement. Moi, j'espère que Philippe Luiz va lui faire du bien, justement, dans cet aspect défensif. Je trouve qu'en première mi-temps, il a été beaucoup plus rigoureux que d'ordinaire, mais c'est dans l'aspect défensif où il doit vraiment se développer. Vanderson, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu des rumeurs à 30 millions à Tottenham, il n'a pas progressé d'un iota, voire pire. Donc j'ai pas vu ce joueur évoluer. Je l'attendais fort et je l'ai pas vu évoluer.
Mais même sur l'action du premier but, il est trop tendre. Il doit être beaucoup plus incisif sur son intervention. Et ça permet d'avoir de la continuité sur l'action et d'avoir le centre qui amène le but de Prékov.
Bien sûr. Donc après, voilà, j'ai envie de laisser du temps au nouveau coach. Vraiment, j'ai envie de lui laisser du temps. Il y a des jeunes talents. On a vu beaucoup de jeunes qui commencent un peu à sortir. J'aime beaucoup l'ailier, là, Zuber.
Zuber,
excusez-moi. Et j'aime bien aussi Brunner, voilà, cette année, je pense que ça peut être vraiment ça.
De toute façon, cette année, moi, si un des enseignements, et pardonne-moi de te couper, un des enseignements de ce match, c'est aussi de savoir que la charge de but de Balogun pourra être potentiellement mieux répartie. C'est-à-dire qu'il y a des candidats. Ce sera pas juste Ablin. On voit Biret qui a été un peu plus convaincant que l'année dernière.
Pense-moi bien, je me méfie, moi.
Non, mais je me méfie. Non, mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté que ça va lui apporter ce but va lui apporter de la confiance. Là, il avait la tête dans les chaussettes la saison dernière. Et Brunner, quoi qu'il arrive, il continue de surfer sur son excellente pré-saison. Et son but, il est pas évident à mettre. C'est un beau but d'avant-centre. Il a avec un timing parfait. Il faudra de toute façon compter sur lui, surtout dans un système à deux attaquants.
La dernière attaque où il manque un peu de précision, mais bon, je pense que Brunner, il y a quelque chose à en tirer. Je pense que Biret, on voit qu'il est plus affûté, je le trouve plus affûté, il a marqué en préparation, je pense que ça va, voilà, après, je sais qu'il faut faire attention, bien sûr. Mais je sais pas, je sens une bonne vibe, autour de Biret, Ablin, Brunner, donc voilà. Et puis, je pense aussi l'ailier, là, qu'on a pris à gauche,
Détourbé.
Son nom. Celui qui était titulaire.
Idumbo.
Idumbo, ouais.
Idumbo.
Mais Idumbo, voilà, il était déjà l'année dernière. L'année dernière, il jouait piston et c'est vrai qu'il avait été.
On l'a séché parce que ça a été très 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 compliqué. On a vu dans les matchs, c'était très très compliqué et là, j'ai l'impression.
Il jouait pas vraiment à son poste l'année dernière.
Nouveau coach. Je pense que ça va lui faire du bien, ce nouveau coach. Voilà, donc laissons du temps à ce coach de se développer. On sait qu'à Monaco, les coachs, ça peut aller très très vite. Donc laissons-lui du temps. Après,
mais là, c'est la base de ton projet. C'est-à-dire que tu l'as quand même shippé. Alors pour des questions de diplôme, à Leverkusen, il y a le Milan qui le regardait aussi, il y a le Fenerbahçe qui le regardait.
Strasbourg, ça intéressait à lui à un moment.
Strasbourg. Bah, en plus, lui, il était proche de la galaxie Blueco aussi, Philippe et Luis. Donc si tu veux, lui, c'est le porte-étendard du projet monégasque. C'est lui, clairement.
C'est la prise
estivale. C'est pas Mathis Ablin, c'est Philippe et Luis.
Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord par rapport à ça, donc c'est pour ça, j'espère que on va lui laisser le temps et que voilà, on va enchaîner et puis on verra de toute façon ce que ça va donner, mais c'est vrai que la défense, moi vraiment ça va être un point noir et j'espère que ça va être corrigé.
Et plus qu'à défense encore, j'insiste là-dessus,
Miguel, merci beaucoup.
Eh ben merci beaucoup,
merci
beaucoup à mes collègues animateurs, etc. Et puis voilà. Merci beaucoup.
Salut Mickaël.
Bonne saison, Mickaël.
Dans un instant, évaluation avec Paul au 32-16 supporters de Monaco. Monaco a gagné 3-2 en Pologne et donc bien parti pour se qualifier. Match retour jeudi prochain. Ce sera à 18h45 d'ailleurs, ce match retour. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, et puis on va parler de Ligue 1 Plus d'ici 23h. Comment suivre la Ligue 1 cette année? Quelles vont être les nouveautés? Et Nicolas Pelletier sera là pour nous dire ça parce qu'il était présent à la grande conférence de presse de Ligue 1 Plus. C'est un sujet, évidemment, le foot à la télé est toujours crucial parce que, on paye, on veut savoir ce qu'on va avoir, comment ça va se passer. Vous allez avoir des infos dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles d'Abribois.
Il est 22h17, Elton Mokolo et David Guzman sont là, ils font leur petit mercato pendant la pub. C'est bien les gars, c'est bien.
Même pas mon petit gazon, des vrais mercato.
Des vrais mercato, exactement. Monaco toujours au programme, avant de parler télévision, foot à la télé. Et l'évaluation, on a Paul au 32-16 qui est là après le match gagné par l'ASM en Pologne. Salut Paul.
Bonsoir Gilbert, bonsoir l'after.
Ça va
Paul. Salut Paul.
Je crois que Zacharia t'a énervé, non?
Moi, c'est Zakaria. Quand Philippe et Louis s'est arrivé, l'une de ses premiers éléments, il dit « je reconduis Zakaria en tant que capitaine
ouais. ».
Bon, moi, Zakaria, très bien, effectivement, il a fait une bonne saison parce qu'il a des panneaux en défense centrale. Là, je reviens à la compo, il est replacé devant la défense. Bon, déjà, en voyant Eric Dyer, je me dis « bon, là, ça pue, ça va être à nouveau pas bon » parce qu'Eric Dyer n'a pas sa place dans l'effectif. Il n'a pas sa place, on l'a vu l'an dernier. Il a tenu 2-3 matchs, il a marqué un but, très bien. Et puis après, merci, au revoir, tout le reste de la saison.
Il s'est blessé pendant longtemps aussi, quand même.
Oui, mais à 31 ans, comme il est sur pareil, on sait, même ses années à Tottenham, c'était pas un défenseur transcendant. Il avait des bons matchs, il avait des bonnes périodes, mais c'était pas non plus... quand il est parti de Tottenham, il n'est pas parti en tant que légendaire.
Donc tu veux arriver à quoi,
Bayern, quand même.
Tu veux de nouveau sa carrière en défense centrale?
Ah ben, il faut Zakaria dans la défense centrale et Zakaria qui se remobilise vraiment en tant que capitaine parce que là, certains trouvent qu'il a fait un match pas trop mal. Vous voyez, moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Zakaria, ce qui vraiment mobilise sa défense, qui fasse vraiment comprendre l'enjeu. Enfin, on n'est pas en match de préparation, on est à un barrage de Coupe d'Europe. Déjà que, comme je disais à la mi-temps, on est en conférence ligue par accident. On est en conférence ligue par accident parce que Lens gagne la Coupe de France face à Nice. On a une chance inespérée. On sait très bien, au vu de la situation de Monaco, sa situation budgétaire, la situation par rapport à son stade et même la situation des droits télé, il faut absolument vendre entre 120 et 150 millions par an. On a la chance d'avoir une Coupe d'Europe. On a des jeunes qu'on arrive à faire capitaliser pour les vendre la saison d'après. Et le premier match, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux buts face à une équipe qui est quand même sur le papier très faible.
Paul, tu fais, t'as gagné, hein, je te rappelle.
Ah ouais,
non, mais surtout,
t'as concédé beaucoup d'occasions aussi.
Oui, mais les gars, c'est un match. Il faut toujours considérer ça sur aller et retour. Tu gagnes 3 de l'extérieur. Bon, okay,
non, mais surtout que parfait, dans le contexte de le Zarbeche avait quoi déjà 6 matchs compétitifs.
C'est vrai, t'as raison de dire ça.
Nul à domicile contre le Fener.
Pas non plus. C'est pas négatif ce soir.
Non, mais surtout nul à domicile contre le Fener. C'est-à-dire que c'est pas non plus le premier venu. Certes, Monaco était au-dessus, mais il faut recontextualiser aussi dans le manque de préparation compétitive de l'AS Monaco.
Non, Paul.
Je suis d'accord avec toi, effectivement. D'un côté, il faut se réjouir de la victoire, mais sauf que, si tu veux, nous, les supporters, maintenant, ça fait depuis plus de 10 ans, depuis le titre, depuis 10 ans, on n'a pas une saison bien finie, bien achevée, où on se dit, c'est une saison réussie. À chaque fois, il y a toujours le début de saison est tonitruant, l'hiver, c'est pourri, c'est lamentable, et après, on redémarre au printemps. Et sauf que l'an dernier, on a redémarré avant même de s'effondrer dans les derniers instants. Donc là, moi, je vois, même si Philippe Elus, alors évidemment, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de lui laisser du temps. Comme l'a dit Elton il y a quelques minutes, il a un sacré chantier, parce que déjà, il faut retrouver une stabilité en défense. Là, il y a un chantier impressionnant. Il faut stabiliser les gardiens, il faut stabiliser les défenses. Ça va être un travail monumental. Quand on voit les passoires, les défaites, les déroutes, même s'il y a une différence de classe l'an dernier avec le Real Madrid, on arrive au Bernabéu. Moi, je m'attendais à ce que Monaco prenne 2-3-0, pas 6-1 en pleine tête.
Ouais, mais tu peux pas non plus écarter.
C'est vrai qu'il avait fait mal, celui-là.
Oui, mais tu peux pas non plus écarter la super double confrontation que tu fais contre le Paris Saint-Germain. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu noircis aussi le tableau. L'année dernière, t'as quand même des bons passages, t'as des prestations, notamment les prestations au Parc des Princes, dont tu peux être fier.
Ça peut pas être seulement ça, mais j'ai l'impression que
notre auditeur est quand même très négatif l'année dernière.
L'année dernière,
sur le match aller-retour, Monaco est peut-être...
David, à la base, tu parles d'une équipe qui fait deux fois de suite podium de Ligue 1, qui aspire à beaucoup plus et qui termine 7e. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre tout le monde devant ses responsabilités. Pour revenir sur le cas Zakaria, moi, c'est très intéressant. Son année 2026, j'ai beaucoup aimé Zakaria en défense centrale. Coupe du Monde, j'ai beaucoup aimé Zakaria latéral droit. Et moi, j'aimerais bien... Aimé Zakaria, milieu de terrain.
Je pense que dans ce système, il est un peu trop exposé.
Il est trop exposé.
4-4-2 à plat, il est trop exposé. Je suis d'accord.
Exactement. Mais après, même, c'est vrai que j'ai un peu tendance à dire oui, l'an dernier, il y a eu des bons matchs. Mais bon, faut pas oublier que face à des équipes comme Strasbourg, on mène de 4 buts, on se prend 5-4. Face au Paris FC, on prend 4-1. Effectivement, il y a un bon passage face à Paris en barrage. À ça, par contre, ça, j'oublierai pas, effectivement. Mais derrière, il faut voir les raclés qu'on prend en championnat, c'est pas normal. Donc c'est vrai, oui, j'ai un peu tendance à noircir peut-être le tableau. Oui, je vois peut-être un peu la saison là, mais vu ce qu'on a passé sur les dernières années, parce qu'à chaque fois, on finissait sur le podium, mais on aurait pu faire mieux. Monaco aurait pu faire mieux, Monaco aurait pu aller plus loin. Par exemple, il y a des années, des saisons où ils auraient pu aller assez loin en Coupe de France. En 2021, la finale, par exemple, la finale, La compo est complètement bâclée.
Toi, c'est le déclassement de Monaco, en fait, qui t'inquiète, le déclassement progressif.
C'est ça, en fait, oui, parce que Monaco, je pense qu'il ne, il y a maintenant peut-être ce mercato, avec la question des droits télé, il y a vraiment une prise de conscience. On se dit, OK, là, si on ne fait pas en urgence un bon budget, un bon mercato, des bonnes ventes, là, ça, on court tout droit à la catastrophe. Et là, ce Kourou, cet été, on l'a enfin découvert sous son bon visage, c'est-à-dire des ventes efficaces. Alain, pour le coup, pour le jeune Bamba qu'ils ont vendu à Newcastle, 40 millions, bon, c'est magnifique, c'est une belle enveloppe. Le vendre à 40 millions alors qu'il a à peine
20 matchs. On le dit tous les soirs, la France vend très bien.
À Monaco vend parmi les clubs, franchement, Monaco, sur les, on va juste sur la dernière décennie, il a fait des magnifiques ventes. Entre Mendy, Silva, Rames Rodriguez, Martial, il y a des très très belles ventes qui sont faites. Mais derrière aussi, il faut un recrutement intelligent. Autant de Tourbé, moi je suis très content sur l'aile. À ce soir, j'ai vu un bon match. Moi j'ai vu ce jeune là, il est prometteur. Pour Ablin, j'ai un peu plus de réserve parce que c'est un bon joueur, mais faut pas oublier qu'il sort d'une, il est quand même acheté 30 millions et il sort d'une relégation avec Nantes. Donc moi j'attends de voir sur le tas, est-ce qu'il va vraiment remplir son rôle. Parce que là aussi pour
d'ailleurs, ce sera quoi là en l'état, c'est quoi l'attaque type, on va dire? Parce que moi je trouve que Brunner c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Birette, tu fais jouer Birette, Ablin, ils peuvent pas aller à 3, j'imagine.
Non, d'habitude il est adepte du 4-2-3, mais là il joue en 4-4-2. Je pense que Ablin, Birette, ce serait vraiment le duo le plus complémentaire.
T'as aussi l'équation Ansu Fati.
Mais
qui va pas revenir tout de suite, qui devrait revenir en septembre, mais il va falloir l'intégrer.
Je sais pas s'il va continuer en 4-4-2 toute la saison.
Pour moi aujourd'hui, par rapport à l'état de ton milieu de terrain, l'animation défensive, pour moi c'est trop ambitieux.
Je suis d'accord avec Elton, il faut le 4-4-2 de ce soir, à mon avis, il ne peut pas être une version définitive. Je pense que peut-être un 4-2-3-1, c'est peut-être...
C'est ce qu'ils voulaient mettre en place initialement.
Derrière, il y aura aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le retour de Balogun, de Fatih, mais après, à terme, il y aura aussi Minamino et Golovin, qui ne sont pas encore partis. Donc,
Minamino ne partira pas, puisqu'il se remet des croisés. Je pense que Minamino, il doit revenir quoi, octobre, c'est ça?
Oui, mais après, s'il revient, on a quand même aussi un joueur qui quand même...
Dans cette réalité actuelle de
Golovin, tu comptes encore dessus? Golovin, il est bon à 12.
Oui, mais moi, quand il est pas bon, il ne coûte pas des points. Mais quand il est bon, il s'en rapportait. Contrairement à Kehrer, j'ai lu qu'il y avait des clubs qui le courtisaient. J'ai un message au club allemand qui le courtise. Foncez, prenez-le, débarrassez-vous.
Ils écoutent l'after en plus, c'est sûr.
Mais par contre, là, je ne veux plus le voir parce que quand je l'ai vu en match amical avec le Brassard, je me dis non, ça c'est pas possible. L'an dernier, il a marqué quelques buts, mais qu'est-ce qui nous a coûté un match? Qu'est-ce qui a coûté un match entre lui et d'ailleurs? D'ailleurs, quand il est arrivé, on savait qu'on s'attendait pas à grand-chose. Mais quand on s'est dit bon. Est-ce que sa période de PSG n'avait pas été très bonne parce qu'il arrivait de Schalke? Est-ce que c'était la pression à Paris qui était trop grosse? Est-ce qu'il avait passé le niveau? Bon,
à West Ham, il était erratique aussi, hein, je te rassure.
Kehrer, c'est un des rares footballeurs qui fait un truc qu'en général, ils ne font jamais. C'est que c'est le mec qui pourrit publiquement ses gardiens de but. Vous avez remarqué ça? Il fait souvent ça.
Je vois totalement.
Ouais. Quand le gardien fait une semi-boulette, il le regarde, mais qu'est-ce que tu fous? Moi, je suis pour rien.
Je suis d'accord.
Ambiance 5.
Alors que ça, dans le milieu pro, en général, tu fais jamais ça, parce que tu es surinterprète. Lui,
même si à Monaco, il a quand même régulièrement l'occasion de s'en prendre un peu.
C'est vrai qu'il y a un peu des passoires quand même dans les buts. Il faut reconnaître que.
Non, mais Kehrer, pour moi, n'a pas le. Enfin, effectivement, comme tu dis, Gilbert, c'est sur le terrain, il n'hésite pas à exploser directement. Je sais pas comment ce joueur peut arriver à être avec un Brassard en match. Pour moi, il n'a pas.
Ah, parce que c'est l'un des joueurs les plus expérimentés.
Finalement, c'est assez étrange qu'il soit sur le banc là.
Pour moi, c'est de la rotation en fait. Pour
le moment, on sent qu'il sera titulaire contre le Havre là.
C'est faut bien démarrer la saison et en plus t'as l'occasion de mettre en avant
ça. Défenseur central, c'est pas le poste où t'as le plus de dépenses physiques, mais bon.
Ouais, mais après ils ont investi sur Sadibou Sané.
C'est quoi, c'est quand même 10 millions d'euros. Hein.
C'est l'avenir en fait à ce poste. C'est quelqu'un.
Donc d'ailleurs, ce sera Kehrer.
Il peut recentrer Mawissa et faire jouer Nazinho aussi.
À moins que Kehrer s'en aille et qu'il y ait des trucs, des hommes dans les studios, comme dit Paul.
Bon. Moi, j'espère que Kehrer va s'en aller parce que quand même, c'est un poids mort dans l'équipe, c'est un poids lourd. Il n'a pas la mentalité d'un cadre, il n'a pas l'attitude d'un cadre. Pour moi, quand je le vois avec le brassard, c'est la décoration sur lui. Limite, j'ai envie de dire que Pogba a plus d'effets positifs dans le vestiaire que lui. Alors que pourtant, Pogba, il n'a même pas su aligner l'équivalent d'un match et demi en un an. Ouais. Et là-dessus, je salue quand même le courage, enfin, au bout d'une énième blessure des dirigeants monégasques.
Enfin, le courage du pragmatisme, et surtout ça.
On arrête la farce, on arrête le truc. Parce que je me disais, à la rigueur, si je le gardais une saison et qu'il servait de cadre dans le vestiaire, ben là, ils ont bien compris, c'est de dire, non, celui-là, il est à nouveau blessé, il fait une danse avant l'entraînement, il se pète à l'entraînement, il va nous plomber le vestiaire. Non, là, pour le coup, c'était, j'aime beaucoup Paul Pogba, j'aime beaucoup ce qu'il a fait quand même, par le passé, mais là, malheureusement, faut être honnête. C'est terminé pour lui, c'est terminé.
Mais après, tu sais que, regarde, avec Zakaria qui était pas performant, qui est potentiellement sur le départ, parce que tous les gros salaires sur le départ, si tu sors d'ailleurs, si tu sors Kerrer, si tu sors Zakaria, tu vas peut-être avoir aussi à un moment un problème de leadership. C'est quoi? C'est Radeki, ton joueur le plus expérimenté? En attendant que Minamino revienne, et Minamino qui est pas forcément non plus le plus, je pense, charismatique ou influent ou vocal dans le vestiaire.
Oui, mais Zakaria, je veux pas le sortir, je veux bien le repositionner parce qu'en défense centrale, il joue son rôle. Pour moi, Zakaria a passé un cap où son poste au milieu, certains joueurs évoluent dans des postes. On va prendre l'exemple de Laurent Blanc. Laurent Blanc, son début de carrière, il était qu'un milieu offensif. Il était quand même pendant un temps le meilleur buteur de Montpellier. Qui, au final, sa fin de carrière, quand il est parti de Manchester United, c'est une légende en défense. Pour moi, Zakaria, comme Fabinho est en Monaco, Fabinho, il était recruté latéral droit. Et puis, sa meilleure saison, c'est un milieu défensif. Pour moi, Zakaria, à Monaco, son poste de prédilection, c'est la défense centrale. La période, comme le disait Elton, la période.
À 3. Il a joué souvent à 3.
Oui,
en défense centrale.
Il porte bien du dispositif à 3.
Mais même, il y a eu quelques fois des matchs où il était à 2, mais il tenait son rôle, il tenait sa place. Il était présent, il était percutant. Et même, on voyait un Zakaria vraiment impliqué, bien investi. Parce que quelquefois, au milieu de terrain, ben, j'ai l'impression qu'il est perdu, qu'il se sent pas à sa place, qu'il sait pas où aller. Enfin, j'ai l'impression de le voir éteint alors qu'il a le brassard, qu'il se dire, les gars, suivez-moi.
Bon, Paul, est-ce que tu, comme nous, on l'a dit au début, tu considères que Monaco doit viser la victoire en Conference League?
Oui et non, parce que, oui, évidemment, tout simplement parce que c'est une compétition, donc il faut partir du principe qu'il faut s'engager dans une compétition. Ce sont des footballeurs professionnels, ils doivent s'engager jusqu'au bout. D'autant plus qu'il y a une autre raison, au-delà même de l'engagement, c'est que s'ils vont jusqu'au bout, supposons, ils arrivent à la gagner. Alors déjà d'une, c'est une qualification automatique pour au moins une autre Coupe d'Europe. Et puis déjà, faut pas oublier qu'aussi ça peut aussi être une source de revenus financiers. Quand on sait la réalité des droits télé aujourd'hui, qui nous en avons un temps entre justement parce que j'ai écouté les retours de D1 sur le, ne serait-ce que sur le dossier de la FFF avec la FIFA. Vu comment la brune, quand on voit son fonctionnement, le fonctionnement de la FFF, on sait très bien que la question des droits télé ne va pas s'améliorer dans le temps. Donc, les clubs doivent comprendre maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore compris, les clubs doivent absolument comprendre qu'aujourd'hui, les droits télé à l'ancienne, sous la période Canal, c'est terminé.
Je pense donc, qu'ils ont réalisé ça.
Et en plus, je vais pas faire une Kylian Mbappé, mais c'est vrai que le football aussi a pris une autre évolution encore plus drastique. C'est-à-dire que maintenant, les entraîneurs, un entraîneur qui reste plus de 2 ans, c'est presque un exploit. Il faut des
résultats. Surtout à Monaco.
En plus, à Monaco, oui, parce que, à part Jardim, qui est resté 4 ans.
Non, t'as Hutter qui a fait deux saisons aussi.
Ouais, oui, donc, oui. Hutter, Kovac, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne, la durée de vie moyenne de Ligue 1.
Ah oui, Nico Kovac, plus qu'à Hutter, je pense plus que c'était une non-prise de conscience de la direction, de se dire on va attendre, parce qu'avec Nico Kovac, il était quand même assez plus rapide, c'était pas la même direction sportive, c'était Mitchell qui était Skourou, il a complètement laissé traîner. Si c'était Mitchell qui était là, Mitchell aurait déjà dégagé à Hutter. Mais effectivement, à part depuis le départ de Didier Deschamps en 2005, rares sont les entraîneurs qui ont duré plus de 2 ans.
Ben oui.
Et encore ceux qui ont été au bout de leur contrat, c'est parce qu'on savait que la saison ne donnerait rien, qu'on laissait aller jusqu'au bout, comme ça a été le cas de Ricardo. Même un entraîneur comme Ranieri n'a pas été gardé. Enfin, il arrive en Ligue 2, il fait remonter le club.
Même viré Thierry Henry, quel scandale.
Ça, c'est vrai, ça. Alors qu'il a repris l'équipe.
Bon, Paul, merci en tout cas. Je vois que t'es toujours passionné par ton club.
Ça a été très détaillé.
Bravo, exactement.
On a tout couvert.
Ouais.
Salut, Paul, à bientôt.
Salut, Paul.
Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup, Astaire. À très vite.
Voilà pour le match de Monaco. Donc, match retour la semaine prochaine. Bon, on peut quand même considérer que, ouais, ils ont fait le plus dur, sans doute, pour se qualifier pour la phase de poule de la Conference League. Donc, ça veut dire que le jeudi, là, si tout va bien, les gars, on va avoir, parce que moi, je suis plutôt confiant pour Lyon. Ce serait franchement avec pour l'aller là, Fenerbahçe, bon, ils n'ont pas été super impressionnants. Donc le jeudi, on va avoir Rennes et Marseille en Europa League et Monaco en Conference League.
Pas mal.
En fait, c'est l'avantage de ce qui s'est passé sur la saison Ligue 1 l'année dernière où ils ont raté leurs objectifs. Ça te permet d'avoir une Coupe d'Europe avec des participants français très intéressants.
On va avoir des semaines bien étalées.
Bah oui, voilà, bien. C'est parfois dans des choses qui sont pas bien, on peut en tirer des choses positives.
Pour le dimanche, pour Ligue 1 Plus aussi, sans faire de transition, ça veut dire que t'auras quand même Marseille, Monaco, qui joueront forcément le dimanche en.
C'est vrai que t'es bon, t'as tout anticipé.
Exactement. Et Lens.
Non, Lens, il est en Ligue des
Champions. Mardi, mercredi, jeudi, je me fais mes petites semaines. Moi,
fais ton planning. Ouais.
On s'organise.
Fais déjà le planning.
Ouais, on s'organise.
Donc, tu auras Paris, Lens, Lille, Lens, Lyon, mardi, mercredi.
Voilà, donc tu auras deux clubs français par soir.
Et t'auras.
Pas mal.
Et t'auras.
Et les trois, le jeudi.
Rennes.
Ça me plaît.
Bah non, et en plus, tu les retrouveras le dimanche. Ces trois équipes, quand même, séduisantes. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Enfin, une bonne distribution.
Bah justement, tiens, on va parler de la répartition des matchs et du foot à la télé dans quelques instants avec Nicolas Pelletier. Ligue 1 Plus se relance, bien sûr, avec cette année tous les matchs. Explication dans quelques instants. Comment vous allez vivre le foot à la télé cette année? C'est tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h36. Elton Mokolo et là, David Guzman et Nicolas Pelletier nous rejoint. Nicolas, bonsoir.
Salut les amis, salut à tous.
Ligue 1 Plus a déjà lancé sa saison parce qu'ils ont démarré déjà avec la Ligue 3.
Ça fait deux semaines qu'ils ont démarré.
On va en parler dans quelques instants. Donc la Ligue 1 est sur Ligue 1 Plus, la Ligue 2 sur Bein Sport. La Ligue 3, désormais, d'ailleurs, il y a une journée ce soir de Ligue 3. On n'a pas donné les résultats. Je ne sais pas si désormais. Vu que ça s'appelle Ligue 3, on va plus s'y intéresser. On va dire un mot dans quelques instants parce qu'il y a une dinguerie avec les nouvelles règles en Ligue 3. Là. Bon, il y a quand même quelques clubs en Ligue 3. Il y a Bastia, par exemple, hein, d'ailleurs, qui est en train de perdre face à Versailles, chez lui. Il y a Caen, avec Mathieu Bodmer désormais.
Il y a
Cannes qui remonte. Il y a Valenciennes, qui d'ailleurs ce soir joue... quand t'es Valenciennes... Valenciennes, c'est quand même un club historique du foot français. Là, ce soir, il joue sur la pelouse de Paris 13 Atlético. Donc, Paris 13 Atlético, qui est un club de quartier de Paris.
Au Stade Pelé.
Stade Pelé, c'est un stade qui est sous le périph.
Absolument. C'est ça, ouais.
Un synthétique.
Moi, j'y jouais le lundi soir en foot loisir qui s'appelait Robert Boutrou avant de s'appeler le Stade Pelé.
J'y ai joué en poussant.
Le Média Football Club y a joué de nombreuses fois. Et là, Valenciennes, qui est un club. Les mecs, ils se retrouvent là, quand même.
Exactement.
Absolument.
C'est ça.
On appelait le petit Barcelone sous Philippe Montagné, il joue au Stade Boutroux. Ok.
2009.
Sur une très belle pelouse synthétique. Ouais, j'ai vu tout à l'heure à la télé, très belle.
Bon, Paris 13 d'ailleurs, qui a zéro moyen et qui arrive quand même à être là.
Pareil, qui recrute très bien d'ailleurs, qui relance pas mal de joueurs, le Paris 13.
Les mangas.
Bon, alors, Ligue 1 Plus, qu'est-ce qu'il nous annonce là? Le principal truc, c'est quand même qu'il y aura tous les matchs.
C'est la grande nouveauté parce que, alors, ils communiquent depuis.
Ah ouais, il y avait un match sur Bein, évidemment.
T'avais un match sur Bein et les 8 autres sur.
Ça fait partie des pertes de Bein.
Sur Ligue 1 Plus. Et la Ligue 1, au passage, perd aussi 78 millions au passage parce qu'ils ont perdu le match.
Oui, Bein payait ça.
Bein payait.
Enfin, quand tu payais.
Oui. Mais bon, ils perdent quand même 78 millions au passage. Non, c'est la première fois depuis 2008 parce que Ligue 1 Plus communique sur le fait que ça n'est jamais arrivé dans le foot français que ça soit sur une seule chaîne. C'était le cas entre 2006 et 2008 sur Canal Plus où l'on avait l'ensemble du foot français sur une seule et même plateforme. Donc ce n'est pas une nouveauté non plus, mais ça remonte quand même. Il faut remonter à 2008 pour avoir les 9 matchs de Ligue 1 sur une seule et même plateforme. C'était leur grande annonce d'hier. Après, ils ont ajusté leur.
Il y a eu des conséquences sur les prix?
Ben oui, parce qu'il y a une augmentation des prix. Alors voilà. Là, ils ont une offre de lancement à 14,99 qui va directement passer à 19,99 à partir du 6 septembre, je crois.
C'est, alors Nicolas Taverneau, qui était à peu près il y a un an avec nous dans l'After, au lancement de Ligue 1 Plus, l'avait dit. Hein. Lui, il avait déjà dit si, l'année prochaine, si le match revient à Ligue 1 Plus, le prix augmentera.
Ce qui est plus logique. Après, là, c'est l'augmentation du prix qui peut poser question. Après, on a eu aussi l'apport de la Ligue 3. Je ne sais pas si ça fait augmenter un
c'était
prix.
Gratuit, c'était gratuit, en plus. C'était sur FFTV.
Exactement.
Non, mais surtout qu'il faut aller chercher les 78 millions perdus, comme l'a très justement dit Nico. Donc, en conversion d'abonnés, ça fait des plusieurs centaines de milliers d'abonnés.
On a tourné. Alors, ils n'ont pas voulu communiquer sur le nombre d'abonnés, mais on tourne quand même autour.
Un million.
Oui, autour du million. Je pense qu'ils en ont perdu pendant l'été, ce qui est normal sur les chaînes qui ne diffusent rien, aucun programme pendant l'été. Donc, il va falloir partir à la conquête de nouveaux abonnés. On sait que dans le business plan qu'ils avaient présenté en juillet 2025 avec Nicolas de Taverneau, ils visaient sur cette deuxième saison 1,5 million d'abonnés avec les 9 matchs dans le même abonnement. Donc on verra s'ils atteignent les 1,5 million d'abonnés à la fin de cette saison. Et maintenant, tu l'as dit, c'est Olivier Bramley qui gère, qui est le patron qui a remplacé Nicolas de Taverneau. Donc c'est lui qui est chargé aussi d'aller trouver les distributeurs pour distribuer cette chaîne, par exemple. Elle n'est pas encore, par exemple, sur Disney+, qui est un des acteurs qui va monter dans les prochains mois.
C'est surprenant, Disney+, ils prennent le foot espagnol.
Voilà, donc il faut encore trouver...
Si tu es pragmatique aujourd'hui, entre DAZN, qui est le foot espagnol, et Disney+, tu vas sur DAZN. DAZN, t'as aussi l'Italie, t'as aussi la Ligue 1. Oui. Disney+, après, Disney+, si tu veux voir les 101 Dalmatiens,
je pense que tu
l'as déjà vu.
Quand on avait fait Javier Tebas en interview, ils visent pas du tout le même public entre la personne recherchée sur Disney+. Je pense que c'est plus un abonnement d'accompagnement. C'est-à-dire que le gars qui arrive sur Disney+, c'est plus, il y a de la Liga, je vais regarder ça. Alors que sur DAZN, c'est vraiment le fan de foot qui vient s'abonner pour 22 €, je crois, par mois.
22 € sur DAZN, t'as tout.
T'as tout, t'as la Ligue 1.
Enfin, t'as tout ce que propose DAZN.
Mais en tout cas, t'as la Ligue 1, la Serie A et la Liga. Donc, c'est quand même trois des quatre, des cinq grands championnats.
Bah oui. Aujourd'hui,
c'est très conséquent, oui.
Aujourd'hui, c'est DAZN qui a le plus, en fait.
Oui, oui.
C'est une offre éditoriale qui est très
importante. Versus Canal qui a l'Angleterre et le.
Oui. Mais la Ligue des toutes les Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe quotidien, on va dire que c'est DAZN qui a le plus. Quand tu vois Bein qui vit avec la Ligue 2 et la Bundesliga jusqu'à présent, on va voir dans les prochaines semaines s'il y a un accord avec Canal.
Coupe de France
sur
aussi.
Sur la Coupe de France aussi. Mais
alors Bein, moi je vais te dire ce qui va se passer. En fait, Bein est en exclusivité sur Canal.
Pour 250 millions.
Donc ça veut dire que Canal paye. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas laisser Bein avec rien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donner de la Coupe d'Europe à Bein.
Une partie de la Coupe d'Europe.
Ça semble logique.
Oui, en plus Canal n'a jamais été trop. Alors ils sont contents d'avoir la Coupe d'Europe, mais il n'a jamais été trop fan
de diffuser les 600, gros matchs,
mais de diffuser 600 rencontres par semaine où on comprend plus rien dans qui joue et qui joue pas. Tu peux donner peut-être même une compétition, ça peut être même la Ligue Conférence, tu peux la donner à Bein Sport en exclusivité. Donc
je pense que l'OM ils vont le garder quand même.
Oui, c'est vrai. T'as raison. Il y a une conférence le 3 septembre, je pense que à partir de ce moment-là ils pourront peut-être annoncer Bein Sport.
La première journée de Coupe d'Europe c'est mi-septembre.
Exactement, c'est une semaine après.
Surtout que cette entente, en fait, financièrement, elle est quand même intéressante, puisque les 250 millions de diffusion exclusive sur MyCanal permettent à Canal d'enchérir, en fait, d'aller très fort
sur Ligue 1 Plus. Et je sais que ça t'intéresse, mais sur Ligue 1 Plus, il y a un point très important. C'est un potentiel appel d'offres avant la fin de l'année. C'est le point le plus important.
Que voulait faire aussi Nicolas de Taverneau.
C'est Nicolas de Taverneau qui a poussé cette idée auprès des clubs.
Et pourquoi aussitôt?
Parce que, en fait, si tu le fais avant la fin de l'année, tu vas sonder le marché, donc tu vas voir qui est intéressé par ton produit ou pas. Mais derrière, si cet appel d'offres est infructueux, tu peux négocier directement de gré à gré avec un distributeur pour la saison 2029-2030.
Donc, si je comprends bien, ce serait arrangeant qu'il soit infructueux.
Ça peut être arrangeant pour tout à fait. Ça peut être arrangeant pour la LFP parce que tu vas négocier et donc derrière, tu peux obtenir un minimum garantie d'une plateforme. Tu diffuses, la plateforme est sûre et certaine d'avoir 9 matchs en exclusivité sur sa plateforme, mais en revanche, elle donne un minimum garantie.
Et je vais te dire, et c'est là, ce moment-là, que tu peux peut-être faire rentrer Canal dans le jeu.
Canal ou un autre acteur.
En allant les voir, ils disent, bah, regardez, maintenant, il y a tous les matchs, là.
Exactement.
Est-ce que c'est pas le moment de revenir avec des vrais droits?
Mais
des vrais droits.
Comment ça, des vrais droits?
Non, mais un minimum garanti qui ne sera pas au niveau, même au niveau de DAZN, sens.
Oui, ça, oui. Mais tout le monde s'est adapté à cette nouvelle.
En fait, le problème de Ligue 1 Plus, et Nico, je pense que tu vas être d'accord, c'est que maintenant, tu connais vraiment le vrai prix de la Ligue 1. Tu multiplies le nombre d'abonnements par le prix de l'abonnement, et t'as le vrai prix de la Ligue 1, où avant, c'était plus ou moins noyé dans un minimum garanti et dans un éventail de droits qui était beaucoup plus large.
Oui, c'est sûr que quand tu payais 600, 700 millions, même MediaPro, enfin, qui n'a jamais payé, mais qui voulait mettre 1 milliard d'euros sur la Ligue 1 et quand tu vois que tu as sur une saison, même si tu as 8 matchs sur 9, donc tu as quand même le gros du championnat, tu arrives à 1,1 million d'abonnés, tu vas pousser cette saison, si tu arrives à 1,5 million, c'est déjà beau.
Le pic, c'était Prime, je crois. Je crois que c'est l'historique, Prime.
Il faut faire attention dans le décompte des abonnés parce que on met un peu tout dedans. Il n'y a jamais eu de communication officielle de Prime. C'était un institut à part qui avait fait une extrapolation d'un sondage. Donc, faut faire un petit peu attention. Mais c'est très difficile, à part Bein Sport, qui possède autour des 2 millions d'abonnés quand ils ont une Coupe du Monde, en année Coupe du Monde. avoir plus d'1,5 million d'abonnés que pour la Ligue 1, à part si tu ramènes la Ligue 2 peut-être.
Bah, historiquement, de toute façon, t'as pas un pure player, donc quelqu'un qui n'avait diffusé que la Ligue 1 comme produit, qui était pas noyé dans un panel de droits ou d'offres télévisuelles, qui a tenu le coup. Ils ont tous lâché. Prime a lâché, Dazone a lâché, Mediapro a lâché.
Dans tous les cas, tu surpayes ton droit, tu sais très bien. Et oui, même peut-être, je parle sous ton contrôle, mais même peut-être Canal, qui paye je sais plus combien pour la Ligue des Champions, tu surpayes peut-être un petit peu le droit.
Bah après, en fait, si tu veux, c'est tellement compliqué parce que l'éventail de droits de Canal est tellement important que est-ce que ces 600 millions se retrouvent en rétention ou en nouveaux abonnés ? Je pense que Canal ne communique pas dessus, mais c'était quand même hyper important pour eux de garder toutes les Coupes d'Europe. En termes économiques, c'est compliqué.
Après, là, le gros problème, et c'est le gros sujet, mais c'est que à aucun moment, quand tu crées ta chaîne, tu as un minimum garanti, et c'est peut-être c'est ce domaine-là qui plaît au club d'avoir un appel d'offres pour avoir un minimum garanti.
L'an dernier, après la première journée de Ligue 1, on disait « Ah, c'est top, il y a accès dans les vestiaires, on a accès au bureau de l'arbitre, au vestiaire de l'arbitre, il y avait des super innovations. » Et puis au fil de la saison, tout a disparu. On n'a plus rien vu.
C'est vrai que c'est un
enjeu. Il n'y avait plus de coulisses, il n'y avait plus rien.
Ils promettent que cette saison sera du même niveau qu'au début de la saison dernière.
Toute la saison.
Oui, en tout cas, ils promettent de l'inside pendant toute la saison. C'est vrai, je suis d'accord.
Parce qu'hier, l'année dernière, franchement, au début, c'était génial. Puis après, au bout de 10 journées, il n'y a plus rien.
On s'est dit, le vestiaire de l'arbitre, on va les connaître par cœur sur toutes les pelouses de Ligue 1. Et en fait, au fil de la saison, t'as moins vu. Après, ce qu'il faut aussi voir, il y a une petite nouveauté cette saison. Déjà, le magazine du dimanche soir est en clair. Ça va être aussi un moment pour exposer la Ligue 1. Et je pense que c'est pour
rappeler
ça,
un peu le Canal Football Club.
Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu le match de dimanche soir qui a été reprogrammé, parce qu'il faut absolument lancer Ligue 1 Plus en mode Ligue 1 Plus, c'est-à-dire avec un match du dimanche soir et avec le magazine en clair autour. Mais c'est vrai que l'inside, au fil de la saison, l'année dernière, il était assez pauvre, même si Ligue 1 Plus n'est pas d'accord avec nous, hein, c'est leur droit. Mais c'est vrai qu'au fil de la saison, on n'a pas non plus.
Parce que ça amène pour moi une question qui est très importante. Est-ce que les clubs, malgré la tension des résultats, vont jouer le jeu?
J'en ai discuté avec Jérôme Cadadieu, qui est le directeur éditorial de Ligue 1 Plus, et lorsqu'on a fait une interview hier, il nous l'a dit. Il a dit qu'il avait fait une réunion avec les clubs au début du mois de juillet, que tous les clubs, même le PSG, étaient, comme au début de la saison dernière, d'accord pour ouvrir.
Mais les gars, ils ont quelle
intérêt?
Gilbert, Nico, Elton.
Il y a des championnats qui ont été incentivés sur le.
Non, mais en Liga,
plus t'ouvres. Ouais. Ton club et plus tu touches des petits bonus.
Mais malheureusement, le problème, c'est que les clubs, et je me mets à leur place, ils vont me dire. Mais quel intérêt, moi, j'ai à ouvrir? C'est-à-dire que tu vas gagner combien d'abonnés si j'ouvre? Combien d'abonnés tu vas gagner? En fait, le côté négatif, les problèmes que ça peut m'attirer d'ouvrir mon vestiaire avec les images volées, avec les phrases volées, par rapport au gain d'abonnés qui est très marginal, donc au final, les recettes additionnelles, moi, je suis un club, je me dis, bah, franchement, est-ce que je vais vraiment prendre le risque d'ouvrir mon vestiaire, d'avoir un scandale pour gagner combien? 100, 200 cas en plus par an?
Tu sais très bien que c'est de la communication, de la publicité, parce que, à aucun moment, le gars qui a envie de voir, je sais pas, le PSG, l'OM ou Lille, le gars il s'abonne pour regarder son match. Tu sais très bien que ce qu'il y a autour, et maintenant on le voit de plus en plus, il y a de moins en moins d'émissions de foot autour des matchs pour encadrer les matchs, et donc c'est très bien que Ligue 1 Plus mette une émission autour le dimanche soir en clair. Il y a de moins en moins d'émissions pour encadrer les matchs, et on sait très bien que la personne, le client, l'abonné, il cherche son match, le flux du match.
En même temps, c'est normal, on écoute l'after.
Exactement. Non mais voilà, il cherche le flux du match, et c'est un peu Prime Video qui a fait la transformation en France, en arrivant et en mettant vraiment le flux du match avec une petite émission de 15 minutes avant, 15 minutes après, et terminado. Donc il y a aussi cette évolution de la société où l'inside, alors oui, il communique énormément dessus. Et je pense pas
parce qu'attention, il y a aussi deux écueils. Parce que déjà, un, il y a les clubs qui travaillent sur leur propre contenu pour avoir une relation directe par rapport à leur fanbase, les supporters. Et deux, est-ce qu'ils ont intérêt à voir ces images, ces insides éditorialisés? Ils ont horreur de ça.
Exactement. Et surtout, tu as de plus en plus de grands clubs européens, bon, si on prend aussi en France le PSG, mais qui travaillent avec des plateformes pour faire des documentaires.
Bien sûr, des All or Nothing ou des.
C'est ça.
Dans un instant, on continue la discussion. Notamment, on va reparler de la nouvelle répartition horaire aussi du week-end, parce que on va le découvrir ce week-end. On va voir un vrai multiplex, le retour d'un vrai multiplex le samedi soir. On en parle dans quelques instants ensemble. Et puis, oui, le fameux football vidéo support là de la Ligue 3. Je sais pas sais pas si vous avez vu ça, faut qu'on en parle.
Tourné au VHS, Bernard Montier,
ça,
Ludogag,
c'est quand même usine à gaz de ouf de la, du début de saison, c'est la cata. Allez, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
22h51, Elton Mokolo, David Guzman et Nicolas Pelletier. Le foot à la télé cette année, comment ça va se passer? Alors, répartition, il y a du changement. Déjà, le match du vendredi, désormais, il est à 20h45.
Tous les matchs sont à 20h45 en prime time. C'est pour une meilleure lisibilité.
Très bien. Donc, désormais, un match le samedi après-midi, en début de soirée, on va dire, fin d'après-midi, 17h15. Là, en l'occurrence, c'est Lens-Auxerre samedi. Et ensuite, 4 matchs le samedi soir. Alors là, on n'aura pas les matchs. Là, ça va être un peu les matchs, on va dire.
Les matchs mon petit gazon.
Les matchs les moins intéressants, quoi.
Oui, après, je comprends.
Les matchs ventre mou. Et les matchs sans club européen, souvent.
L'année dernière, tu avais souvent 3 matchs dans le multiplex ce dimanche. Là, tu en récupères un. Donc, normalement, tu peux récupérer normalement une petite équipe qui peut potentiellement
jouer l'Europe. Non, mais les équipes qui jouent pas l'Europe, t'as quand même des équipes intéressantes qui jouent pas l'Europe. Strasbourg, Paris FC.
Dans la saison, tu peux récupérer un match intéressant.
Moi, j'aime beaucoup le multiplex du samedi soir parce que ça te place en concurrence avec quasiment personne. Là où le dimanche 17h, bah, t'avais le gros match de Première Ligue.
T'auras un des clubs qui joue le mardi en Ligue des Champions qui peut jouer le samedi quand même.
Oui, tout à fait. Non, mais même par rapport aux autres cases horaires.
Oui.
Le dimanche 17h, c'est la fiche de Première Ligue.
Par exemple, 17h15, c'était la case abonné PSG. Ils jouaient tout le temps là.
Ouais. Samedi 17h15
ouais, souvent. T'avais le PSG là, ou alors parfois le dimanche soir, mais pas très souvent le samedi là. D'ailleurs, entre parenthèses sur les abonnements, j'ai vu passer ça. L'an dernier, le supporter du PSG, il y avait facilement une dizaine de matchs sur Bein.
En gros, ouais, et c'est ce qu'ils nous ont expliqué hier. En gros, tu avais.
Ça, c'est un vrai avantage pour le supporter du PSG.
Alors, PSG, Marseille, Lyon. Et Lens.
C'est les clubs qui étaient le plus souvent sur Bein.
Lens et le PSG, tu gagnes 8 matchs en plus sur la saison avec l'abonnement au même endroit. Ouais. Tu gagnes 8 matchs en plus. Et pour le Marseille.
Bon, après, le supporter d'Angers, lui, il était jamais sur Bein. Donc...
et pour Marseille et Monaco, tu gagnes 7 matchs en plus sur la saison.
Bon, c'est une parenthèse. Et donc le dimanche, désormais, il y a moins de matchs le dimanche. On n'a plus que 3. Ouais. 1 à 15h, 1 à 17h15, 1 à 20h45. Voilà.
Bon. Ça met beaucoup plus en valeur aussi les rencontres. C'est plus lisible. Après, encore une fois, le dimanche 17h.
Après, moi, je trouve le découpage quand même très. Enfin, il est parfait.
C'est mieux, encore une fois, de repositionner multiplex un samedi parce que ça met en valeur ce que j'appelle la classe moyenne de la Ligue 1, visibilité un samedi, beaucoup plus que le dimanche 17h15. C'était au carrefour de plusieurs matchs européens.
Il y a une c'est toujours un gros match anglais.
Bah oui, c'est ça. Après, c'est un joie par rapport au match de 17h30.
C'est la programmation qu'on a au mois d'août. Quand ça va arriver au mois de décembre, janvier, février, où on va avoir des changements de programmation parce qu'une équipe joue là, une équipe joue là. Oui. C'est arrivé la saison dernière, ouais, mais c'est arrivé très souvent la saison dernière où le multiplex, il était.
T'auras un match en moins?
Ouais.
Mais c'est passer de 4 à 3 ou de 3 à 2. Et après, quand tu fais le multiplex à 2 le dimanche,
etc. Et passer le multiplex le samedi soir te permet aussi d'avoir plus de.
En Espagne.
Pour manager le dimanche.
En Espagne, il faut un truc très simple, c'est un match à midi, un match à 14h, un match à 16h, un match à 18h, un match à 20h, parfois un match à 22h. C'est-à-dire que tu peux rester devant ta télé le samedi et le dimanche. Le Elton, espagnol.
Le Elton tout court, parce qu'il le fait ici.
Le Elton tout court.
Le mec, il
est sûr de finir célibataire, parce qu'il va se faire midi, minuit, samedi et dimanche.
Ouais.
Bon, après, tu regardes pas tout, tu choisis ton match. Mais en tout cas, eux, ils ont fait ce choix-là, les Espagnols. C'est assez
surprenant. Mais après, en France, c'est un attrait culturel, le fait d'avoir ce multiplex.
Mais l'Espagne, c'est sur combien de journées? Toujours.
L'Espagne, c'est de manière classique, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ça commence.
Non, t'as lundi aussi, t'as des matchs lundi aussi en Espagne.
Et lundi, c'est vrai, t'as raison.
C'est un peu les matchs moisis lundi souvent.
Ouais, c'est ça. En général, les clubs comme l'Espagnol.
Première Ligue, c'est sur 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche,
sur 4 jours.
Alors, j'ai vu que Ligue 1 Plus, ils nous promettaient des drones.
Ouais. Et 10 affiches en ultra haute définition pour eux.
Ils vont faire quoi avec les drones? T'as le droit déjà? Parce que.
C'est un peu, je sais pas si vous avez regardé le Trophée des Champions, mais ils l'ont utilisé sur la présentation des nouveaux consultants, lors du Trophée des Champions. Ils ont utilisé un drone et donc.
Ah, donc pas pendant le match?
Non, c'est, avant match.
Parce qu'à la limite, moi, j'imagine, tu as un drone pendant le match, qui te fait une image, qui descend, qui suit le joueur, un peu comme au ski, là, tu sais, qui suit le joueur.
C'est sur les plus belles affiches de la Ligue 1, et t'as souvent la Spider Cam, c'est-à-dire la caméra araignée qui est au-dessus des stades, qui est dans la plupart des grands stades de Ligue 1, et sur les plus belles affiches, tu l'as toujours. Donc,
dans quel match récemment qu'on a vu le ballon toucher le câble?
C'est
en Angleterre.
Angleterre-Norvège.
Norvège-Angleterre.
Refcam, on reste avec la Refcam?
Il y a la Refcam.
D'accord.
Est-ce qu'ils ont pris les Refcam de la Coupe du Monde? Parce que l'année dernière, on avait la Refcam, on ne voyait rien. Alors qu'à la Coupe du Monde,
c'était mieux. Elle a été améliorée grâce à de l'intelligence artificielle, mais sur certains matchs, tu as la Refcam. Par exemple, sur le Lille-PSG qui arrive à la J2, il y a la Refcam. Ça sera surtout sur les gros matchs qui vont utiliser la Refcam. Et puis, tu as la sonorisation des arbitres, comme on a pu le voir à la Coupe du Monde.
Ça avec explication dans le stade.
Exactement, ça arrive aussi en Ligue 1.
C'est une nouveauté.
Oui, c'est une nouveauté, mais que la Fédé avait déjà officialisé, parce que c'est la Fédé qui gère l'arbitrage.
Donc oui, je voulais dire un mot de du fameux football vidéo support. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Donc en Ligue 1, t'as le VAR, qui est déjà une catastrophe intégrale, on l'explique dans l'after depuis 20 ans. En Ligue 2, il n'y a rien.
Non.
Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de vidéo support. Et en Ligue 3, il y a depuis cette année ce qu'on appelle le football vidéo support, c'est-à-dire que les coachs ont le droit deux fois dans le match de dire, attendez,
de tourner la main.
Non, ils tournent la main comme ça.
Ils tournent la main, voilà, et ils disent, attendez, stop, là, j'utilise mon FVS, mon joker de joker, parce que pour moi, là, il y a faute. Pour moi, ce but-là, il est pas valable, par exemple. Et moi, j'ai regardé la première mi-temps du premier multiplex de Ligue 3, c'était un enfer.
Mais bien sûr. Bah, c'est avec deux caméras, en fait,
parce
le problème.
Parce qu'en fait, c'est impossible à suivre. Les mecs, dès qu'il y a un but contre eux, monsieur, vérification. Donc, en fait, le diffuseur, comment tu fais? Attendez, bah là, il y a un but là. Ah ouais, mais là, il y a le mec qui l'a mis sur FVS. Ah non, regarde le FVS. Ah, pendant ce temps-là, t'as un autre FVS. C'est imbitable.
Moi, je suis totalement d'accord.
Oui. Sur ça, c'est.
L'idée
n'est pas l'idée de Ligue 1 Plus.
Moi, je trouve l'idée top. J'avais même fait un avis tranché pour l'intronisation de challenge.
Non, David, moi, je suis contre parce que ce football Netflixien où tu reviens, tu rembobines pour dire il s'est passé ça, non, c'est intenable parce que ça pose des questions des moyens humains, des moyens techniques.
C'est du VAR, en vérité.
Bah oui.
Oui, bien sûr.
C'est la FFF qui gère le championnat de Ligue 3, qui l'a mis en place et qui voulait apporter des nouveautés.
Mais aussi, c'est ça comme un laboratoire.
Laboratoire des deux premières divisions. Donc, c'est la Ligue 3. Et donc, ce fameux football vidéo support doit normalement être un laboratoire pour peut-être une VAR allégée à l'avenir en Ligue 2. Mais lorsque tu as deux caméras sur une plateforme avec un...
Mais ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'évidemment, en Ligue 3, tu as les petits stades.
Exactement.
Ah oui, c'est ça.
Donc c'est un peu mal filmé quoi, en mode Coupe de France quoi, et donc et ça rajoute en plus au bordel.
Deux caméras, l'arbitre, alors le pauvre arbitre qui se retrouve face à la vidéo, il est obligé de, enfin je vois même pas ce qu'il voit sur cet écran.
Non, c'est
et donc
compliqué.
Ça donne des scènes qui sont complètement.
C'est à Thionville où il y a eu le.
Bah ouais,
au Aubagne contre Thionville.
Non mais vous rendez compte, on cite des villes, on a un projet qui est surdimensionné pour des moyens techniques humains adaptés à ces villes. C'est problématique.
Mais
ça.
après. On peut pas non plus les blâmer d'avoir utilisé la Ligue 3, le néo-professionnalisme. Il y a des bonnes idées. Ils veulent mettre un salary cap avec une espèce de luxury tax, hein, comme dans les sports américains. Il y a des bonnes idées en Ligue 3. Moi, j'ai pas envie de les condamner, mais c'est vrai que la réalisation, pour l'instant, est très compliquée. Et moi, mon idée de challenge, c'était pour remplacer la VAR. C'était pas pour la complémenter.
Après, là, pour tout vous dire, il y a une réunion cette semaine entre Ligue 1 Plus et, parce que c'est plusieurs petites sociétés de production qui réalisent partout en France et qui renvoient le flux à Ligue 1 Plus, et donc il y a une réunion cette semaine pour un peu
ce qui se dit.
Ligue 1 Plus n'était pas du tout content des deux premières journées, et donc ils ont un petit peu haussé le ton pour un petit peu harmoniser tout ça, et donc normalement dans les prochaines semaines ça sera un peu mieux pour la Ligue 3 avec un match premium qui arrive le jeudi soir. En plus de la Conférence Ligue, en plus de la Ligue Europa, il y a un match premium de Ligue 3 le jeudi soir qui sera produit avec 5 ou 6 caméras. Donc voilà, il y a aussi une premiumisation de la Ligue 3.
Bon, et puis moi je suggère, parce que si on peut utiliser des drones, amenez-nous les meilleurs dronistes de France, parce que tu peux faire des images de folie avec des drones pendant les matchs.
Il y avait un drone en permanence sur chaque match de Coupe du Monde, en plus d'un hélicoptère. Bon, après on parle d'un match de Coupe du Monde, mais c'est possible d'utiliser des drones. Après en France, c'est aussi il y a une réglementation hyper stricte pour utiliser des drones au-dessus d'un public, donc faut aussi avoir beaucoup d'autorisation.
Bon, reste là parce que tu vas nous dire un mot d'Infantino et puis avant nos paris Ligue 1, il faut qu'on passe en revue l'actu du jour. J'aimerais que David nous fasse un point sur Bordeaux parce qu'aujourd'hui les choses ont évolué. On fait donc ce petit point dans quelques instants. Il est 23h, l'after revient tout de suite, on est là jusqu'à minuit.
RMC, l'after foot.